Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La vie reprend et son rythme soutenu pour un certain nombre, la fameuse rapidation du pape François, une sorte d'accélération actuelle du temps. Et pourtant, il y a peu encore, lors du confinement, tout semblait au ralenti. Et dans cette sorte de grand silence, une voix s'est fait entendre, naturellement au-dessus de la mêlée, celle du pape François, une voix que l'on entendait chaque matin nous parler de Dieu, à l'occasion de la messe qu'il célébrait en direct du Vatican, exceptionnellement retransmise dans le monde entier, mais aussi une voix qui a lancé à plusieurs reprises des appels forts au monde, à l'Europe ou à la France. Cette émission pour ne pas oublier trop vite ce qu'il a dit, pour ne pas nous laisser gagner par l'amnésie post-confinement qui nous guette. Ce qu'a dit le pape François pendant le confinement, c'est donc le thème de cette émission Vivante Église en ce mercredi. Pour nous en parler autour du plateau, Nicolas Senez, vous êtes correspondant du journal La Croix à Rome. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Patrice de Plainquette, vous êtes essayiste, auteur, entre autres, d'un ouvrage appelé « La révolution du pape François » paru aux éditions Arthège et chroniqueur sur notre antenne. Bonjour.
Bonjour.
Et Robert Jimenez, vous êtes diacre du diocèse de Montauban et en charge de la doctrine sociale pour ce même diocèse. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté tous les trois de prendre le temps de regarder un petit peu dans le rétroviseur. On peut se dire que ça date déjà que d'écouter le pape François ou de savoir comment il a vécu son confinement ou ce qu'il a dit. Mais voilà, c'est le but, ne pas être trop amnésique et puis entendre ces grandes lignes ou ces grandes directions qu'il a données à l'occasion de ce confinement. Nicolas Senez, on va commencer avec vous. Je suis retombé sur un article du journal La Croix qui date un peu, justement. C'était le 10 avril 2020, coronavirus, le pape se confie sur la crise et il expliquait la manière dont il vivait ce confinement. Avez-vous des choses à dire pour compléter ce que vous aviez écrit alors? On avait entendu que le pape François avait travaillé, beaucoup travaillé, et prié, et encore plus prié que d'habitude. En tout cas, c'est ce que vous laissiez entendre.
Oui, il a beaucoup prié, beaucoup travaillé. On l'a vraiment senti au cours de ces mois vivre très intensément la douleur des fidèles, en fait. C'était le fait qu'il soit la douleur à la fois de ceux qui perdaient des proches, la douleur des malades, la douleur aussi des fidèles qui se retrouvaient isolés. Et ça, c'est quelque chose qu'il a ressenti très très profondément et comme s'il avait voulu porter cette souffrance dans la prière. Et ça, c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup marqué dans son attitude. Et les gens que j'ai pu rencontrer, qui, eux, l'avaient rencontré, me disaient, on sent vraiment chez lui le souci des personnes qui souffrent.
Alors, on a vu hein, des images, en tout cas pour un certain nombre, à l'occasion donc la fin du carême, de la Semaine Sainte, des images fortes, hein, parfois dans la nuit, place Saint-Pierre de Rome, avec un pape François qui semblait presque vacillant, écrasé. Si je reviens, peut-être avant de parler de choses spirituelles, sur des choses plus triviales, vous parliez dans cet article du travail donc du pape François et de la curie, et le pape François avait ce mot, ici tout le monde est au travail, il n'y a pas de feignant. Comment est-ce que le Saint-Siège s'est organisé ou quel a été un peu le rythme de travail? Qu'est-ce que le pape François voulait entendre par cette remarque?
Ben, comme partout ailleurs, là où il y a eu du confinement, il y a eu du télétravail, beaucoup, hein, dans les dicastères, et quasiment dans les dicastères, dans les ministères hein, de la curie romaine, n'étaient présents que les supérieurs, c'est-à-dire le cardinal préfet ou président, ses secrétaires, vraiment le staff de direction. Et l'idée a été vraiment de travailler à la fois pour soutenir ceux qui étaient dans la crise, et puis aussi beaucoup réfléchir à l'après. C'est vrai que c'est une crise qui a révélé beaucoup de choses, et en particulier, pour moi, c'est vraiment la crise typique de ce que décrivait le pape dans Laudato Si. On a vraiment une crise qui naît finalement donc d'exploitation d'animaux, hein, ce lien entre l'écologique, le sanitaire, les conséquences économiques, sociales sur le travail montrent justement à quel point, comme le pape François le répète à l'envi, dans le date aussi, tout est lié. Et donc, bah, d'une certaine manière, l'idée était de montrer que la reconstruction du monde d'après ne pourra se faire que justement selon les, eh bien, tout ce que le pape François mettait en avant dans son encyclique autour de nouvelles façons de vivre, de la sobriété heureuse, comme il l'appelait, et que là, il y a des pistes intéressantes pour rebâtir un monde qui ne devra plus être comme avant.
Alors, le pape François, qui depuis donc a annoncé l'ouverture d'une année Laudato Si, qui a publié aussi une lettre au mouvement populaire, sur laquelle on s'arrêtera longuement avec Patrice de Plainquette et Robert Gimenez. J'aimerais, Nicolas Sonnez, que vous arrêtiez, vous, sur quelques-uns des grands appels que le pape François a lancés à l'occasion de ce confinement, notamment un cessez-le-feu mondial, reprenant, si je ne me trompe pas, là, un appel de l'ONU. Dites-nous peut-être les circonstances. Est-ce qu'il y a eu aussi des réactions d'un certain nombre de chefs d'État? Est-ce qu'il a été entendu, le sait-on davantage à Rome qu'ailleurs?
Les faits montrent, je lisais encore hier après-midi, justement, l'aide à l'Église en détresse, qui faisait un peu le bilan de cet appel et qui montrait que bah, finalement, que ce soit en Centrafrique ou ailleurs, hein, le pape avait eu finalement assez peu d'écho. Je crois, enfin, on a senti que justement dans cette crise, on a plutôt vu un réveil des égoïsmes nationaux plutôt qu'un réveil du dialogue. Et je crois que c'était quelque chose qui inquiétait effectivement fortement le pape. Il rejoignait là effectivement des appels lancés par exemple par l'ONU. Voilà, c'est vrai que le monde n'a peut-être pas saisi cette perche qui était tendue de faire de ce temps de confinement aussi un temps de dialogue.
Alors, il y a un autre appel qui a été lancé à l'Europe, peut-être a-t-il été davantage. Et avant de nous donner votre sentiment, est-ce que vous pouvez redire quels étaient un peu les termes de cet appel? Le pape prie pour que l'Europe trouve l'unité rêvée par les pères fondateurs, lançait-il, je crois que c'était le 22 avril dernier, à Sainte-Marthe, donc cette maison à l'intérieur du Vatican. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de l'Europe pendant ce temps de confinement?
Quand il appelle l'Europe à retrouver l'esprit de solidarité de ses fondateurs, voilà, le pape est d'abord l'évêque de Rome, donc on est à Rome, on est en Italie. Cet appel est lancé au moment où l'Italie ne sent pas réellement une solidarité de la part des autres pays européens. À ce moment-là, l'Italie est c'était le premier pays européen vraiment frappé par la crise du coronavirus. S'est senti lâché à la fois sur le plan sanitaire, aussi sur le plan économique et de l'aide économique par ses partenaires européens. Et on l'a vu immédiatement, il y a eu, donc on parlait tout à l'heure, hein, de ce réveil des nationalismes, ce réveil des égoïsmes nationaux, a touché l'Europe. Et ça a provoqué dans l'opinion publique italienne une véritable crise de, mais finalement, si l'Europe nous lâche, qu'est-ce qu'on a gagné de l'Europe s'il n'y a plus cette solidarité-là? Et là, on est dans un des pays fondateurs de la première communauté européenne. Hein, c'est un des six premiers pays, le pays où on a signé, ici à Rome, le traité qui a créé la communauté européenne. Donc, voilà, il y avait cette volonté de dire, attention, encore une fois, face au réveil des égoïsmes, au repli, où chacun essaye de se protéger de son côté, il ne faut pas jouer cette carte-là, mais il faut au contraire, l'Europe ne pourra s'en sortir dans cette crise que si elle renoue avec ses idéaux, avec son projet originel, justement, de solidarité, d'aider ceux qui sont dans la mouise, pour justement se relever tous ensemble.
Alors Nicolas Sonnez, il ajoutait que le défi du moment dépendra non seulement de son avenir, mais de celui du monde entier. Vous pouvez mettre ça en perspective. Peut-être est-ce là un propos récurrent du pape François, mais l'Europe aurait un rôle, on va dire, pionnier, au moins à l'occasion de cette crise, quant à sa manière de réagir. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là?
C'est pour lui, pour le Vatican en général, dans la diplomatie vaticane, l'Union européenne est vraiment un exemple de coopération donner aux autres continents sur la, justement, cette capacité à travailler ensemble, à s'unir dans les différences, à s'unir après aussi un conflit mondial dévastateur et qui a dévasté l'Europe, mais de rebâtir cette union et cette solidarité sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment quelque chose que le Vatican en général, et le pape François en particulier, lui qui est le premier pape non européen depuis longtemps, veut donner en exemple, parce qu'il voit bien aussi que cette Union européenne, cette idée communautaire de solidarité, elle est profondément inspirée aussi par les idéaux chrétiens et que les idéaux de ses pères fondateurs, on rappelle régulièrement ici au Vatican, ses pères fondateurs étaient des catholiques, enfin des chrétiens, sinon tous des catholiques.
Dernier point, avant-dernier point en tout cas, parmi les appels, alors c'est pas tout à fait un appel, mais en tout cas c'est un appel téléphonique, il y a eu une conversation donc entre Emmanuel Macron et le pape François. Au sortir de cette conversation, l'Élysée titrait, en tout cas c'est ce qu'on pouvait lire dans votre journal, « La France lance des initiatives, le pape les soutient ». Là-dedans ont été évoqués un certain nombre de sujets, notamment l'annulation de la dette des pays africains. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette conversation? Est-ce que l'Élysée a tiré un peu trop la couverture à lui en donnant cette phrase comme conclusion de cet entretien, Nicolas Sonnez?
Alors moi, les personnes que j'ai interrogées au Vatican sur cet entretien, le Vatican en général ne fait pas de commentaires sur les conversations téléphoniques du pape François, sauf si l'interlocuteur laisse communiquer. Et le Vatican en général n'intervient, m'a-t-on dit, que si l'interlocuteur trahit les propos de la conversation. Donc on peut en conclure que si le Vatican n'est pas intervenu, c'est que la communication de l'Élysée n'a pas trahi, outre mesure, l'esprit de la conversation entre le pape François et Emmanuel Macron. C'est vrai que sur cette question, par exemple, de la dette, c'était un appel qui avait été lancé par le Vatican, d'abord par le cardinal Taglé, qui est le préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples et le président de Caritas International, et qui a été très volontiers repris par le pape François. Et ça fait partie, effectivement, c'était un des axes de la diplomatie française au cours de cette crise. Et donc, ici, le Vatican et la France se sont retrouvés. Sur la question européenne et des solidarités européennes, là aussi, le pape François a soutenu la façon dont, justement, la France s'est, in fine, placée aussi aux côtés de l'Italie pour demander une plus grande solidarité. Donc ça, c'est des choses qui rejoignent les deux diplomaties. Et d'ailleurs, la semaine dernière, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, était ici au Vatican, rencontrait ses homologues au plus haut niveau. Et là encore, on a vraiment senti une convergence de vues sur les questions de l'Afrique, sur les questions du Moyen-Orient. Il y a une grande inquiétude, par exemple, ici au Vatican, sur les projets d'annexion des territoires, d'une partie des territoires palestiniens par Israël, par exemple.
Pour finir, Nicolas Sonnez, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles des finances du Vatican? Alors, on aura probablement l'occasion de parler du bon ordre que le pape François met de plus en plus dans la gestion des finances du Vatican. Mais là, je voulais que vous nous parliez peut-être de ces difficultés financières, puisqu'un certain nombre d'auditeurs quand même qui nous écoutent ont une affinité avec le Vatican, avec le Saint-Siège, une affinité d'élection. On se dit tous moins de touristes, moins de visites dans les musées du Vatican. Est-ce là une des principales, on va dire, mannes financières du Vatican, et comment va le Vatican financièrement?
Ah ben, il va mal parce que justement la plupart de ses recettes habituelles vont être impactées par cette crise. Vous l'avez dit, les entrées des musées du Vatican, c'est sur un budget de 500 millions d'euros pour le Vatican, les musées du Vatican, c'est 100 millions d'euros. Et là, 3 mois de fermeture, rien qu'en billetterie, donc en dehors de tous les souvenirs qui peuvent être achetés et tout ça, ils ont perdu un petit peu moins de 20 millions d'euros. Donc c'est énorme pour le budget de ce petit État. Les autres ressources financières, c'est le denier de Saint-Pierre, mais justement, dans quelle mesure les fidèles vont être en mesure, vont pouvoir donner de l'argent ou pas, parce qu'eux-mêmes sont touchés par la crise.
Il faut dire que c'est une quête annuelle qui est normalement prévue le 29 juin et qui a été reportée là au 4 octobre déjà.
Oui, parce que le Vatican a bien vu la difficulté d'organiser cette quête le 29 juin. Donc ça sera le 4 octobre, jour de la Saint-François, voilà, pour bien marquer aussi ce lien avec le pape. Et puis les autres sources de revenus, c'est l'immobilier dont le Vatican est propriétaire, mais le Vatican a aussi annoncé que, par exemple, pour les commerçants à Rome qui lui payent un loyer, les loyers ont été suspendus pour leur permettre de tenir le coup. Donc là aussi, c'est un manque à gagner pour le Vatican. Et puis, ça forme de revenus financiers qui devraient aussi être touchés par la crise économique. Donc tout ça fait que le Vatican, alors ils ont fait plusieurs scénarios. Il y a le scénario catastrophe où on est quasiment à quasiment la moitié des recettes en moins. D'autres scénarios sans doute plus réalistes tapent sur une baisse de 20%. Et c'est donc bâtir un budget qui va être compliqué parce que les principales dépenses, elles, du Vatican, c'est les aides et les soutiens aux églises. Et là, la marge de manœuvre du pape pour soutenir les églises les plus pauvres va être effectivement touchée. Non. À côté de ça, il y a des bonnes nouvelles. Vous avez sans doute entendu parler ce week-end d'un centre d'affaires judiciaires qui progresse. Et donc, le Vatican poursuit maintenant des gens qui l'ont arnaqué dans les années précédentes. Il y a même un banquier italien qui était interrogé la semaine dernière au Vatican. Et au terme de l'interrogatoire, la justice vaticane a décidé de l'incarcérer au Vatican pour détournement de fonds. On l'accuse quand même d'avoir mis dans sa poche 10 à 15 millions d'euros.
Ça n'est pas une petite somme. Et puis vous dites aussi dans un article donc intitulé « Le Vatican envisage des mesures d'économie » où vous reprenez, dont vous reprenez là un certain nombre de propos qu'a priori pour l'instant, en tout cas, le Vatican mettrait un point d'honneur à ce que les 3000 employés du Saint-Siège ne soient pas licenciés. Merci beaucoup Nicolas Sonnez pour ce coup de zoom et ce coup de rétroprojecteur quant aux nouvelles du Vatican et du pape François. Un grand merci à vous. On fait une première pause musicale. Et puis, on va retrouver nos autres invités pour nous plonger dans un court texte, mais important, une lettre du pape François au mouvement populaire. Elle est signée du 12 avril 2020, c'était donc le dimanche de Pâques. Et cela dit probablement des choses importantes sur la suite de la gestion, on va dire, de cette crise par le Saint-Siège. Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce qu'a dit le pape François pendant le confinement, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Était avec nous au début de cette émission Nicolas Senès, correspondant du journal La Croix à Rome, et avec nous toujours en plateau Patrice de Plainquette, essayiste, chroniqueur sur cette antenne et auteur entre autres d'un ouvrage, La Révolution du pape François, paru aux éditions Artege, et Robert Jimenez, diacre du diocèse de Montauban et en charge de la doctrine sociale pour ce diocèse. Patrice de Plainquette, avant qu'on se lance donc dans la lecture et commentaire de cette lettre du pape François au mouvement populaire, donc signé le jour de Pâques de cette année. Quel est, au sortir du confinement, est-ce que vous avez le sentiment, comme je le disais en introduction, que l'amnésie nous guette tous? Est-ce là un danger?
L'amnésie? Oui et non. Enfin, ça dépend entièrement de quel milieu on parle. Il est certain que pour les responsables de l'économie, et des grandes structures nationales et internationales, après avoir beaucoup parlé du monde d'après, du rien ne sera plus comme avant, on sent bien que la grande tentation, c'est de renouer avec le monde d'avant et de relancer, la fameuse relance. Et la relance, si elle est exclusivement économique et financière, et si elle ne remet justement pas en cause ce qui, dans le système économique et financier et social global, est au fond intimement lié avec le déclenchement de la pandémie et avec sa diffusion mondiale, eh bien, rien n'aura été compris, rien n'aura été retenu. Et justement, c'est en cela que les réactions à cette circonstance nouvelle du pape François ont été extrêmement pédagogiques. Et c'est une excellente initiative que de revenir sur ces réactions pour en tirer nous-mêmes la leçon.
Alors justement, ce monde d'après, le pape François a posé en fait une pierre qui est peut-être pas celle qu'on aurait attendue, parce que en fait c'est une pierre qui paraît toute simple de prime abord. C'est donc cette lettre du pape François, cette lettre donc au mouvement populaire. Il commence par un ton très personnel et j'aimerais qu'on commence par ça. Il dit « Chers amis, je pense souvent à nos rencontres, s'adressant donc aux frères et sœurs des mouvements et organisations populaires. Je pense souvent à nos rencontres, deux au Vatican et une à Santa Cruz de la Sierra, et je vous avoue que ce souvenir me fait du bien, dit le pape François, me rapproche de vous, me fait repenser à tant de discussions partagées, etc., etc. Et un peu plus loin, aujourd'hui, en pleine pandémie, je pense particulièrement à vous, et je tiens à vous dire que je suis à vos côtés. On peut avoir l'impression que là, il disait en fait le cœur de sa pensée ou de ses prières, Patrice de Plainquette, c'est-à-dire qu'il était au front à côté d'eux, non ?
Il était au front à côté d'eux. Il souffrait comme nous tous, de la même façon que nous tous, de l'isolement provoqué par l'urgence sanitaire. Et c'est important à plusieurs titres. C'est important pour la compréhension de la psychologie de cet homme qui est admirable, qui est un guide pour le monde d'aujourd'hui. Ça, c'est ma conviction profonde. Et heureusement, je ne suis pas le seul à le penser. Et puis, par ailleurs, c'est une grande leçon sur, je dirais, le sens, l'esprit de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Tout à l'heure, je pense que M. Jimenez nous en parlera en expert qu'il est, mais il est certain que la doctrine sociale de l'Église, le mot « doctrine » ne reflète peut-être pas, surtout dans le monde actuel, l'esprit réel, car il ne s'agit pas d'une espèce de programme réservé à un micro-milieu, un parti, une entité particulière. C'est au contraire une proposition très ouverte, faite à tous, par l'Église catholique, par les catholiques en général, sur la base de la condition humaine partagée. Ce n'est pas un parti qui brandit un programme. Et la doctrine sociale de l'Église, c'est au fond, c'est l'Évangile mis en germination selon le terrain, selon les milieux, selon les situations économiques et sociales. Et ce côté, si vous voulez, presque toujours expérimental de la pensée sociale catholique,
c'est une chose extrêmement importante qui n'est pas très bien comprise, ni par les catholiques eux-mêmes, pour bien le dire, ni par les non-catholiques et les non-chrétiens, par la société actuelle qui est ignorante totalement du christianisme à 95% sinon plus, y compris dans ce pays-ci. Et donc, il est très important de voir comment le pape François fait avancer la pensée sociale de l'Église, la doctrine sociale de l'Église, en la passant au feu de l'expérience concrète de tous les jours. Et sous cet angle, c'est un contact permanent, un travail régulier avec les mouvements populaires, et quelquefois de très important, qui également n'est pas très bien, qui n'est pas mal perçu, mais qui est presque pas perçu du tout, il faut bien le dire, sous nos latitudes.
Alors juste, on peut dire de qui il parle ou à qui il s'adresse. Hein. Il les cite, vendeurs ambulants, recycleurs, forains, petits paysans, bâtisseurs, couturiers, ceux qui accomplissent différents travaux de soins, vous les travailleurs informels, indépendants, etc. etc. Il ajoute, dans ce système, vous êtes véritablement invisibles. Autre expression, vous êtes de véritables poètes sociaux qui donc êtes dans les périphéries oubliées. On a l'impression qu'en fait là, il y a une orientation stratégique en fait qu'il veut donner à l'Église et qu'il espère donner au monde à travers cette courte lettre. C'est qu'il faut, une fois de plus, c'est une des grandes convictions du pape François, mais là il enfonce le clou, réfléchir à partir de ces périphéries oubliées, Patrice de Plainquette. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre en fait la première incise de cette lettre?
Oui, certainement. Périphérie, oui, périphérie par rapport à, on ne sait pas très bien quel noyau central. Si, on pourrait penser que le noyau central, c'est, je dirais, une certaine bourgeoisie catholique, classique, et qui se pense elle-même comme centrale dans le catholicisme, dans les pays occidentaux en tout cas, et pour laquelle ces milieux populaires peuvent être ressentis comme périphériques. Donc en effet, il faut sortir pour aller vers eux, parce que c'est chez eux que ça se passe. Et que ça se passe, alors naturellement, le pape là s'adresse à des milieux latino-américains, ceux dont il a l'expérience pastorale, parce que c'était aussi l'archevêque des bidonvilles à Buenos Aires. Bon, il ne faut quand même pas l'oublier, l'excellent livre de la protestante Evangelina Initian sur le pape François, son origine, le pape François avant d'être pape. C'est ça, c'est vraiment la pastorale concrète sur le terrain, au milieu du troupeau, et c'est-à-dire au milieu aussi des non-chrétiens, et même de militants sociaux qui se veulent anticatholiques. Mais la question n'est pas là, la question sur les conditions humaines partagées. Donc, quand il parle ces mouvements latino-américains, certes, ils sont latino-américains, et il est facile d'élargir le message à l'ensemble des démarches que nous avons tous à accomplir en tant que catholiques, sous toutes les latitudes, parce que partout, c'est sur le terrain, je dirais que c'est à la base, comme on aurait dit autrefois, que ça se passe. Et là, on l'a bien vu avec le drame de la pandémie, quand on a découvert ce dont on avait totalement perdu conscience, que ceux qui sont indispensables à la marche de la société, c'est peut-être pas les grands financiers, c'est peut-être les petits métiers indispensables qui se sont retrouvés en première ligne pour faire continuer à exister la société. Je dirais aussi bien les soignants qui sont comportés, comme on le dit couramment, comme des héros, et ça c'est parfaitement vrai, sauf qu'en ce moment les héros en ont plein le dos et qui vont le dire le 16 avril. Mais aussi les éboueurs qui ramassaient les ordures malgré tout et dans des conditions sanitaires difficiles. Et voilà.
Ces fameux invisibles donc, qui ont été rendus visibles. Robert Jiménez, donc la première pierre, on va dire, de cette lettre, si on prend le temps de bien s'y arrêter, c'est donc de remettre, on va dire, au centre du jeu et de la réflexion les périphéries oubliées. On a l'impression que le pape François met ça en regard. C'est une expression qui lui est chère, une expression qu'on retrouve largement dans Laudato aussi, des paradigmes technocratiques. Il continue, j'espère que les gouvernements comprendront que les paradigmes technocratiques, qu'ils soient étatistes ou fondés sur le marché, ne suffisent pas pour affronter cette crise. Est-ce que c'est David et Goliath qui le remet face à face? Et redites-nous aussi ce que sont ces paradigmes technocratiques, pour ceux qui n'auraient pas suivi, lu Laudato Si ou suivi certaines de ces des émissions qu'on essaie de faire.
Je crois que d'un côté, le pape François fait tout à fait corps avec ce petit peuple qui est dans les mouvements populaires. Ces mouvements populaires qui sont en fait toute cette partie de l'économie qui passe sous le radar de l'économie en fait en Amérique latine, qui n'est même pas reconnue officiellement, mais qui est très utile à la société, par exemple les cartoneros, qu'on appellerait nous les chiffonniers, enfin, et bien d'autres comme ça, petits métiers, et même petites entreprises qui se créent, qui ne sont pas reconnues, souvent pas recensées, qui n'ont donc pas droit à grand-chose, mais qui sont vraiment un tissu populaire invisible, effectivement. Et de notre côté, le pape François est très réaliste, il sait très bien que nous sommes plongés dans un système qui est encore le système dominant, hein, ce fameux paradigme technocratique.
Alors, qu'est-ce que c'est pour rappel, les paradigmes technocratiques?
Paradigme technocratique, c'est simplement un système d'organisation à la fois économique, sociale, politique, c'est tout un ensemble, c'est tout ce système qui fait que aujourd'hui nous sommes ce qui compte et ce qui dirige le monde, ce n'est pas le besoin de l'humanité, ce ne sont pas les besoins des personnes, mais ce qui dirige le monde et ce qui lui donne une orientation, c'est un petit peu les exigences à la fois financières de la grande finance et les exigences aussi technocratiques, puisque la technocratie aujourd'hui en est arrivée à un point où elle prend le pas sur la politique. Elle prend le pas sur la politique, elle envahit nos vies, elle envahit nos existences. Et donc oui, le pape François met effectivement face à face, met en relief un petit peu cette opposition entre ces deux mondes, un monde qui est le monde de l'avenir, le monde de l'harmonie, le monde de la paix, de la fraternité, de la solidarité, de notre côté un monde qui veut se perpétuer à tout prix, mais qui malheureusement porte en lui une démarche qui est mortifère, parce qu'elle élimine tout ce qui est humain.
Patrice de Plainquette, quel fil on peut tirer au regard de tout ce qu'a dit le pape François par ailleurs, donc dans Laudato Si et ailleurs, quand donc il fait cette critique du paradigme technocratique, disant qu'elle ne suffit pas à affronter la crise, qu'il veut remettre au centre les périphéries, qu'est-ce qu'on peut entendre derrière comme suite ou comme juste piste pour essayer de construire le monde d'après ?
Il faut, pour répondre à cette question, qui est une très vaste question, regarder à la fois l'analyse d'ensemble qui est donnée par l'encyclique, par Laudato Si, qui esquisse des propositions qui sont aussi bien politiques qu'économiques, que sociales, et qui, partant des initiatives de la vie quotidienne, s'élargit de cercle en cercle jusqu'à influencer, si faire se peut, les dirigeants de la politique et de l'économie, et du local passé au national et à l'international, parce que un problème international, réponse internationale aussi. Et puis il y a cette idée qui trouve des échos particuliers en France après les troubles sociaux que nous avons connus l'année dernière et que nous reconnaîtrons peut-être à partir de la rentrée, c'est que les périphéries, je veux dire les gens d'en bas, comme on disait, la base, les ignorés, les invisibles, qui sont de moins en moins invisibles, et surtout ils ne veulent plus être muets. Je vous disais tout à l'heure le slogan des personnels hospitaliers qui vont manifester le 16 avril en France, les héros en ont plein d'eau. Et un autre slogan qui est non au retour à l'anormal, L'apostrophe plus loin, anormal. Car le paradigme technocratique pesant sur le monde hospitalier, ça illustre de manière particulière et flagrante ce que disait M. Jiménez cette supériorité affirmée du technocratique sur le social, sur l'humain, et ça aboutit à des situations inhumaines. Alors face aux situations inhumaines, le pape, dans sa lettre au mouvement populaire, cite en exemple les mouvements latino-américains quand il leur dit « Vous ne vous renfermez pas dans la plainte, vous retroussez vos manches et vous continuez à travailler pour vos familles, pour vos quartiers, pour le bien commun. Parce que le bien du quartier, c'est une fraction du bien commun général. Ça, c'est très important parce que c'est un appel à la mobilisation constructive, mais à une mobilisation sans faille, sans fléchir et qui ne se laisse pas intimider. Tout ce qui est du mouvement populaire, depuis le début de ces discours, de ces rencontres, c'est ne vous laissez pas intimider.
On pourrait citer aussi ce passage, notre civilisation si compétitive et individualiste avec ses rythmes frénétiques de production et de consommation, ses luxes excessifs, ses profits démesurés pour quelques-uns doit être freiné, se repenser, se régénérer. Et puis surtout, vous êtes des bâtisseurs indispensables, ce changement inéluctable. On sent bien que le pape François, quelque part, ne veut pas avoir de réponse justement lui technocratique ou vu d'en haut et il demande en fait à tous ces mouvements populaires et à tous ces hommes et ces femmes du monde d'en bas, si c'est pas plus largement que la France d'en bas en fait, d'être les acteurs de ce changement. Il insiste sur un point, donc projet du développement humain intégral, c'est ces fameux 3T. Patrice de Plainquiète, vous pouvez revenir sur ces fameux 3T qu'on ne connaît pas tous?
Oui, les 3T, c'est le toit, la terre et le travail, qui sont les droits sociaux fondamentaux qui sont toujours à revendiquer. Mais revendiquer, c'est le premier pas en avant, mais comme le dit le pape dans la lettre, à travers l'organisation communautaire, vous revendiquez vos droits. C'est-à-dire que vous ne vous résignez pas et vous n'attendez pas que tombent les miettes de ceux qui détiennent le pouvoir économique. Ça, c'est très important, parce que à l'heure actuelle, il est beaucoup question d'activité, de décision, de soutien aux demandes aux entreprises de faire des... Bon, oui, ce sont des miettes qui tombent du pouvoir économique. Ce que le pape encourage dans les mouvements populaires et plus largement dans l'ensemble du monde, c'est l'organisation collective à la base, l'organisation communautaire, spontanée, venant d'en bas, pour faire avancer de nouveaux modèles de production économique indépendants du monde de la spéculation financière. Alors certains diront que c'est de l'utopie, c'est extrêmement difficile, parce que ça revient un petit peu à faire de l'architecture sous un bombardement, n'empêche que c'est la seule voie d'affirmation. Et c'est la seule façon de faire du constructif. Par conséquent, tout ça est à méditer en partant de l'exemple latino-américain, en le généralisant, en retenant l'esprit et en trouvant des moyens d'application sous d'autres latitudes, dans d'autres contextes culturels et sociaux.
Voilà, des bâtisseurs indispensables à ce changement inéluctable. Le pape François qui appelle d'une certaine manière à une forme de révolution. En tout cas, la révolution, c'était le titre d'un de vos livres, Patrice de Plainquiète, La révolution du pape François, paru aux éditions Arthège. On vous retrouve, Robert Jiménez et Patrice de Plainquiète, dans quelques instants, pour continuer d'évoquer cela et puis pour faire écho à certains des sermons, mais sermons ça ne lui va pas du tout, certaines des homilies du pape François qu'il a données à l'occasion de ce temps de confinement, puisque la messe qu'il préside donc chaque jour le matin depuis la maison Sainte-Marthe était télédiffusée, radiodiffusée, bref, par de multiples moyens de communication exceptionnellement à travers le monde et donc aussi en France.
Emmanuel Pella.
Ce qu'a dit le pape François pendant le confinement, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec nous, en cette fin d'émission, Patrice de Plainquette, essayiste et chroniqueur sur cette antenne, essayiste par ailleurs, mais chroniqueur sur cette antenne, et Robert Jimenez, diacre du diocèse de Montauban et en charge donc de la doctrine sociale pour ce diocèse. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais du coup je l'annonce parce que il faudra que l'on en reparle, et comme ça je m'y engage, c'est le fameux aussi salaire de base universel que le pape François a appelé de ses voeux, et ce dans le monde entier, comme un prolongement de cette lettre donc au mouvement populaire. On pourrait citer aussi cette autre citation du pape François qui espère que cette période de danger nous libérera du fonctionnement en pilote automatique, ébranlera nos consciences endormies et permettra une conversion humaniste et écologiste, nous libérera du fonctionnement en pilote automatique. Ça lui ressemble bien. Il y a d'autres occasions au cours desquelles le pape François s'est adressé avec la simplicité qu'on lui connaît, c'est donc ses messes le matin. Tous les jours, ses messes étaient dites à une intention qu'il précisait. On a décidé d'en garder deux. Avant de les parcourir avec vous, Robert Jimenez, et puis on aura aussi peut-être le retour de Patrice de Plainquette s'il les a suivis. Quel est votre sentiment avec ces homélies en sortant du confinement? Est-ce qu'on a, on n'a pas seulement un pape, mais on peut se dire qu'on a évidemment un pasteur, mais aussi un maître spirituel, Robert Jimenez?
Absolument. Je pense qu'avec avec le pape François, on a un guide. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que ce confinement, il a été à cheval sur le temps de Karim et sur le temps de Pâques. Et ces homélies dont on va parler dans quelques instants, ce sont des homélies qui se situent dans le temps de Pâques. La première, c'est la deuxième semaine du temps pascal, c'est-à-dire le temps de la résurrection. On sort du confinement qui était un temps d'enfermement, apparemment, et on arrive dans le temps de la résurrection, mais on est toujours sur le plan du monde, on est toujours dans le confinement. Et en même temps, les chrétiens sont appelés à vivre la résurrection, c'est-à-dire à se mettre en marche et à sortir. Parce que la résurrection, c'est une mise debout. Et on ne se met pas debout pour rester immobile. On se met debout pour être en marche. Et moi, c'est dans ces homélies, ce que j'ai trouvé très fort, c'est que le pape François, à aucun moment, même pendant le confinement, et encore moins évidemment dans le temps de Pâques, n'a donné l'impression de quelqu'un qui était arrêté ou qui était frappé. C'est quelqu'un qui a toujours appelé à avancer, à marcher, et qui était au cœur de son peuple chrétien et au cœur du peuple tout court.
Il n'était pas assis dans le canapé, lui qui aime bien dire qu'il ouais. faut toujours être en état de marche, un pas devant l'autre, qui reprend presque parfois cette image guerrière. Alors on va commencer avec une homélie, c'était une homélie du 26 avril. Ce jour-là, le pape priait pour ceux qui sont dans la tristesse. C'était l'évangile des disciples d'Emmaüs. Racontez-nous un peu, je crois que le pape François dit qu'il a un faible pour cet évangile, qu'il aurait rêvé d'être un des disciples d'Emmaüs, ouais. Mais comment est-ce qu'il nous invitait à ne pas nous laisser gagner par la tristesse?
Le pape François nous explique à partir de ce texte d'Emmaüs sur lequel nous revenons souvent, qui est un texte très riche et qui évoque plein de pistes. Il nous évoque, pour commencer, l'idée de la rencontre. C'est une rencontre. Et être chrétien, c'est d'abord faire une rencontre. C'est ça que veut nous montrer le pape François au départ. D'ailleurs, ce mot « rencontre », il le reprendra à la fin de l'homélie. Être chrétien, c'est faire la rencontre.
Le christianisme n'est pas seulement une doctrine, ce n'est pas une façon de se comporter, ce n'est pas une culture. C'est tout cela, mais d'abord et avant tout, c'est une rencontre.
C'est une rencontre. Et c'est ce que montre ce cheminement avec les pèlerins d'Emmaüs, où effectivement, on est en marche. On est en marche d'un côté des personnes qui sont déçues, désorientées, qui ne savent plus très bien vers quoi elles vont se tourner. Et puis, Jésus qui marche avec eux, et on voit une personne qui est pleine de patience, ce que nous explique le pape François, qui est pleine de patience, qui les laisse parler, qui les écoute. On a dans ce texte des pèlerins d'Emmaüs à la fois un modèle de catéchèse, bien sûr, mais on a aussi un modèle de comportement humain de ce que le chrétien peut être dans le monde aujourd'hui.
Alors, on peut citer des passages. Hein. Comment Jésus agit-il ? Dans ce passage de l'Évangile, nous voyons bien qu'il respecte nos propres situations. Il écoute nos angoisses, dit le pape François un peu plus loin. Et il ajoute, il n'accélère pas le rythme. Il existe une ancienne règle de pèlerin qui dit que le vrai pèlerin doit aller au rythme de la personne la plus lente.
La plus lente, effectivement. J'ai vécu à ce sujet une expérience très belle dans une communauté. Au moment de réciter le Notre Père, il y avait dans cette communauté des personnes qui avaient des problèmes d'élocution, des problèmes pour prononcer, pour parler, dû à un handicap personnel. Et au départ, on a dit, on va tous réciter le Notre Père, mais en nous réglant sur la vitesse de celui qui va le plus lentement. Et c'est une expérience extraordinaire. C'est vraiment une expérience qu'il faut vivre, ça surprend au départ, même ça gêne un petit peu. Et puis, quand on répète cette expérience, on se rend compte que marcher au rythme de celui qui va le plus lentement, c'est quelque chose qui est profondément dans la démarche chrétienne. C'est revenir aussi à la rencontre avec ceux qui sont les plus faibles, les plus petits, les plus à l'écart.
Le pape François, donc qui a aussi cette phrase, au moment où notre inquiétude rencontre Jésus, là commence la vie de la grâce, la vie de la plénitude, la vie du cheminement chrétien. Patrice de Blainquette, cette homélie, on l'a choisie non pas pour cliver, mais on sait que parfois ça dit quelques grandes orientations pastorales, ces manières de faire. Est-ce que vous voulez réagir, les disciples d'Emmaüs et ce petit faible que le pape François a pour ce passage d'évangile?
Oui, c'est ce qui est très frappant. À la fin de l'homélie, le pape dit, c'est pourquoi nous disons que le noyau du christianisme est une rencontre, c'est la rencontre avec Jésus. Alors pourquoi es-tu chrétien? Pourquoi es-tu chrétienne? Il dit, beaucoup de gens ne savent pas le dire. Certains sont chrétiens par tradition, d'autres ne savent pas le dire car ils ont rencontré Jésus, mais ils ne se sont pas aperçus que c'était une rencontre avec Jésus, alors qu'ils nous cherchent toujours, etc. Alors ça, effectivement, c'est fondamental. Et le fait que beaucoup de gens ne savent pas dire pourquoi ils sont chrétiens, ou alors répondent comme ils le peuvent, ou bien en effet que c'est une tradition, ou bien que c'est pour transmettre des valeurs, enfin, ce sont des formules qui partent d'une très bonne intention, mais qui ne veulent pas dire grand-chose. Alors c'est peut-être qu'il y a une difficulté de s'exprimer, de parler de sa foi, que les Français parlent difficilement de leurs convictions intimes. Peut-être aussi que cette idée de la rencontre avec Jésus, qui est pourtant essentielle, peut-être que dans nos églises de catholiques, du vieux monde catholique, c'est une découverte à faire et qu'il faut beaucoup la font naturellement dans la prière à titre individuel, personnel, mais de là à la faire en communauté, pour que les communautés sortent à la rencontre de ceux qui sont d'une autre ambiance mentale, pour qui la foi est quelque chose d'absolument étranger, et se mettre en dialogue avec des gens qui ne saisissent pas du tout pourquoi vous êtes chrétien et catholique, qui ont même tendance à trouver que c'est bizarre, que c'est pas utile, et que c'est peut-être même un peu inquiétant. Et ça, c'est une véritable ouverture d'esprit, mais il faut la conquérir sur nous-mêmes. Il ne s'agit pas de conquérir les autres, il s'agit de nous conquérir, de conquérir sur nous-mêmes l'ouverture d'esprit qui fera que, peut-être qu'à travers nous, quelque chose passera, un témoignage qui aidera les autres à faire cette rencontre.
En tout cas, ce qu'on entend de la part du pape François, c'est qu'il n'y aura pas de changement ou pas de profonde révolution à lire cette homélie aussi, même si ce n'est pas tout à fait son propos, sans cette rencontre qui est donc le cœur de la foi. Il y a une autre homélie donc, qu'on a choisie, c'était le 21 avril, Robert Gimenez, où le pape François, je me suis dit qu'elle était importante ou elle était représentative, revient sur trois tentations qui divisent les communautés chrétiennes, et probablement le cœur de tout à chacun, l'argent, la vanité et le bavardage. Parlez-nous de cette homélie et de ces trois tentations, Robert Gimenez.
Oui, là on est sur trois thèmes qui sont familiers au pape François dans ses homélies. L'argent, la vanité, le bavardage, dès le départ, dès ses premières homélies à Sainte-Marthe, on a trouvé souvent ces thèmes-là, des commérages qui font mal à l'Église. Et dans cette homélie, il revient sur ce thème. Il revient sur ce thème toujours dans le temps pascal. Ce temps qui est le temps de la résurrection, je crois qu'il faut bien resituer ces homélies dans ce temps qui est fait pour aider le monde à se remettre debout. Parce que notre souci, ce n'est pas de faire avancer l'Église, notre souci, c'est aussi d'aider le monde à se remettre debout. Et il y a un mot qui revient très souvent, 7 ou 8 fois, c'est le mot « harmonie ». Moi, j'ai été très frappé en lisant cette homélie, en la relisant, par la répétition de ce mot « harmonie » qui nous renvoie à la musique. Le mot « harmonie » nous renvoie à la musique et en musique, l'harmonie, c'est l'art de faire sonner ensemble de manière agréable des sons, des instruments. C'est l'art des accords. C'est l'art des accords. Et quand on parle d'accords, en face, on voit le mot « division ». Ici, donc, l'harmonie qui est l'art de l'accord, l'art des accords, en musique, est aussi, au plan humain, l'art de la bienveillance, l'art d'une relation bonne, détendue, respectueuse avec les autres. Et ça, ça s'oppose à la division. Puisque dans cette homélie, ce que le pape François veut effectivement dire, c'est que un des poisons qui fait très mal à l'Église, c'est la division. La division qui vient de différentes sources, les trois qu'on a citées, hein, vanité, argent, bavardage. Et il faut travailler à l'harmonie, comme un chef d'orchestre travaille à l'harmonie de ses instruments et de ses accords.
Si on cite le pape François, l'argent divise, l'amour de l'argent divise la communauté, dit-il. La vanité, il a une expression, c'est faire parce que la vanité vous conduit à être un pan. Et là où il y a un pan, il y a toujours la division, dit le pape François. Et à propos du bavardage, et c'est donc un thème qui lui est cher, cette chose que le diable met en nous comme un besoin de parler des autres, etc. etc. Et on retrouve aussi des principes de gouvernement. Hein. On n'a plus le temps, mais je le rappelle quand même. On sait qu'il y a 3 grands principes de gouvernement qui sont chers au pape François. Et là, on retrouve celui, l'unité prévaut sur les partis, ce grand désir de créer des ponts et au-delà des différences ou des divisions, d'essayer de construire intelligemment ensemble. Merci beaucoup ce matin d'avoir fait écho à toutes ces réalités. Et puis les homilies du pape François, même si elles ne sont plus en direct et si elles ne sont plus, les messes du matin ne sont plus retransmises sur cette antenne, et ben vous pouvez les trouver sur Internet. C'est facile, vous tapez pape François homélie, vous trouverez ça facilement. Je rappelle le titre de votre livre, Patrice de Plainquette, enfin l'un de vos livres, celui que j'ai choisi, La Révolution du pape François, paru aux éditions Artege. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.